おかしい、おかしい。
Bonsoir mesdames et messieurs, Céline de la presse de ce soir vous propose deux thèmes, à savoir publication du calendrier électoral, le MLC appelle à des concertations politiques pour éviter une crise politique en Algérie. Enfin, suivant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, certains députés réclament le départ du président du bureau, accusé notamment d'incompétence et de non-gestion. Participe à ce débat trois confrères journalistes, il s'agit de Marcel Ngoï, il est éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Ambroise Mamba, il est journaliste à la télévision Congo Web, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Et Charles Sabongo, il est journaliste à l'agence congolaise de presse critique au Bandundu. Concertation politique proposée par le MLC, crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir? Comment la presse chinoise a traité ces différents thèmes? Nous allons le savoir en écoutant cet avis de presse que nous propose Samuel Kassak.
Bonsoir. La publication du calendrier électoral par la Commission électorale indépendante continue à susciter des réactions dans les milieux politiques congolais. Les dessous de l'excitation autour du calendrier électoral titre Forum des As. Ce journal fait mention de la réaction du secrétaire général du MLC qui propose une solution consensuelle au sujet du calendrier fixant les prochaines échéances électorales de 2011. Ceci dans le seul but de ne plus cautionner les irrégularités constatées en 2006 et sauvegarder ainsi la paix et l'intégrité du pays. Toujours autour des élections de 2011, la tempête des tropiques annonce la candidature d'Étienne Tshisekedi à la présidentielle. À ce sujet, la prospérité qui annonce Étienne Tshisekedi en bonne santé signale que le leader Maximo de l'UDPS a appelé à l'unité de ce parti en invitant les combattants de sa formation politique à s'enrôler massivement pour affronter les prochaines élections. Élections toujours, la MONUSCO déterminée à appuyer la RDC dans les futures échéances électorales. Selon l'avenir, cette annonce de l'ambassadeur Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, ouvre la voie aux futures élections et coupe court aux intentions de ramener la RDC dans le régime des combines politiciennes en vue du partage du pouvoir loin de la volonté populaire. Terminons cette revue de la presse avec la crise qui sévit au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'avenir revient à la charge et titre Assemblée provinciale de Kinshasa, le MLC veut évincer Roger Nsingi. Pour ce journal, le mouvement de libération du Congo ne voulant plus cautionner le détournement des deniers publics aurait décidé de passer à la vitesse supérieure en demandant tout simplement la déchéance de son propre membre, Roger Nsingi.
Merci Thomas Pacac pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous appréciez le travail fait par la presse écrite cette semaine?
Un travail très fouillé, un travail très riche, très diversifié. Dans la mesure où la presse essaie de mettre son nez dans tout ce qui bouge. En réalité, la presse, c'est la machine qui est pratiquement l'avant-garde de l'action gouvernementale, de l'action du peuple, de l'action de tous ceux qui sont gouvernés. Et c'est la presse qui joue le rôle de base communicant entre ceux qui sont gouvernés et ceux qui sont au pouvoir. Donc, cette période, cette semaine particulièrement, avec toute l'abondance de la matière, avec ce qui s'est passé ce matin dans la ville, trois conférences de presse par exemple, donc ça fait que nous pourrons compléter cette revue de presse avec des analyses que nous allons faire au cours de cette émission.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Congo Web, c'est une télévision qui est née depuis Kinshasa. Comment vous appréciez le travail de la
presse? Oui, la revue de presse est claire, elle est bonne, très bien faite. Étant donné qu'elle aborde tous les sujets d'actualité, notamment liés aux élections, à travers cette revue de presse, on comprend qu'on est déjà à la fièvre électorale, donc les confrères ont bien fait leur travail.
Charles Sabongo, vous êtes journaliste à l'agence congolaise de presse qui coûte au Bandundu. Quelle est l'actualité qui a dominé dans la province de Bandundu cette semaine?
Oui, cette semaine, il y a des conventions que les églises chrétiennes organisent pour soutenir notre pays. La dernière en date, c'est celle du ministère du Full Gospel, qui est intitulée Ensemble, comme un seul homme pour bâtir le pays. En plus de ça, il y a des remaniements annoncés au niveau de la province par le gouverneur, que les gens sont en train d'attendre. Il semble que le gouvernement va sortir dans quelques heures. il y a 5 ministres qui sont tombés, qui sont remplacés par les autres.
Merci. Avant d'aborder le débat de ce soir, nous allons commenter cette actualité tragique. 3 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan de l'attaque dans la nuit de mardi à mercredi de la base de la Monisco à Kirumba au sud du territoire de l'Obero Nord Kivu par un groupe d'hommes armés. Kirumba est à quelques 190 km au nord de la ville de Goma. On écoute le général Philippe Denis, chef de cabinet de la composante militaire de la Monisco, qui nous parle des circonstances de cette attaque.
On estime une cinquantaine d'agresseurs sont sortis de la végétation, ils étaient approchés discrètement, on est la nuit, et donc un combat s'est engagé au corps à corps entre une douzaine de nos soldats et cette partie attaquant de l'ordre d'une cinquantaine de combattants qui étaient équipés, on dirait, de machettes, de lances, de couteaux, d'armes traditionnelles. Les combats au corps à corps ont duré très peu de temps, 5 ou 6 minutes, et devant la réaction et l'arrivée de nouveaux soldats qui étaient réveillés, qui sortaient de leur tente, eh bien les gens se sont enfuis immédiatement. Voilà.
Deux suspects présumés de l'assassinat des Castes Bleus à Kirumba ont été arrêtés hier jeudi par les FARDC. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi à Radio Okapi le porte-parole des opérations Amani Leo au nord et au sud Kivu, le major Sylvain Ekenge, qui indique que ces assaillants ont été appréhendés par une équipe FARDC dans la zone de Lubero, souligne que l'enquête pour déterminer les raisons de cette attaque se poursuit. Marcel Ngoyi, vous êtes de la rédaction de La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Et comment votre quotidien a réagi quand vous avez appris l'assassinat de ces 3-4 bleus?
Oui, mais ce sont des assassinats qui s'inscrivent dans la droite ligne des autres assassinats que le pays est en train d'enregistrer. Là, aujourd'hui, la MONUC et l'ensemble du personnel des Nations Unies qui se trouve au Congo est touché. Mais il y a quelques jours, ça a été une activité des droits de l'homme à Beni. Un homme d'affaires à Butembo, ça a été Isaac Kinshasa, Kebeya, avec son chauffeur. Donc ce sont des assassinats qui s'inscrivent dans la logique des gens qui pratiquent la politique de la terre brûlée. Il faut tuer, il faut tout anéantir. Mais il faut établir la relation des causes à effet. Il faut savoir maintenant pourquoi. Est-ce que ces assassinats sont planifiés? Est-ce qu'il s'agit de crimes d'État? Est-ce que ce sont des assassinats isolés? Est-ce que ce sont des gens qui se sentent poussés, qui n'ont pas de justice et qui estiment qu'ils doivent se rendre justice? Il y a beaucoup de questions qu'il faut qu'on se pose là-dessus. Mais seulement, je ne peux pas accepter, je ne peux pas encourager que l'on tue. La personne humaine est sacrée. On ne peut pas tuer. Vous voyez que les castes bleus près de Lubero sont tombés dans un guet-apens avec une cinquantaine de personnes contre une dizaine. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça repose un problème aussi de l'organisation. Comment ces gens sont tombés dans ce piège-là? Et dans quelles circonstances? Il faut absolument que les enquêtes qui soient en cours se poursuivent et que ces enquêtes nous donnent des éléments d'analyse.
Oui, Ambroise Mamba, beaucoup de questions se posent autour de ces assassinats. Et comment vous commentez ces fatalités?
Moi, je me pose la question de savoir si dans ce pays, il y a un problème de politique supérieure de la défense. S'il y a effectivement ce problème, parce que vu les différents problèmes qui sont passés à l'est du pays, l'insécurité, aujourd'hui les FARDC, ou bien le gouvernement, serait bien organisé de ce côté-là pour assurer la sécurité aux populations. Lorsqu'on parle aujourd'hui des assassinats des casques bleus, si déjà les casques bleus sont assassinés, pourquoi les paisibles citoyens ne le seraient pas? C'est vrai que je dis qu'il y a un problème de défense supérieure au niveau du Congo, il faut absolument résoudre. Aujourd'hui, MONUSCO, cette stabilisation de la RDC, je pense qu'il faudra qu'on puisse effectivement bien réfléchir là-dessus pour qu'il n'y ait plus de cas d'assassinat dans ce pays, pour qu'effectivement la pacification de la partie Est soit assurée.
Michel Kabongo, comment vous, à Kikwit, vous avez accueilli la nouvelle de l'assassinat de ces 3-4 bleus?
Et avec beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse que la population de Kikwit a payé cet acte de barbarie. Nous demandons à notre gouvernement que nous soyons d'abord nos voyants militaires qui viennent de mettre la main sur les deux suspects et nous leur demandons de continuer toujours à mener une enquête pour qu'on puisse réellement arrêter les coupables et les condamner les transgresseurs en justice.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir, publication du calendrier électoral. Le MNC appelle à des concertations politiques pour éviter une crise politique en vue. Le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, appelle à un consensus estimant qu'il y a une crise politique en vue. C'est l'essentiel de la conférence de presse animée dans la capitale samedi dernier par ce parti politique, cher Jean-Pierre Bemba. Le MLC réagit à la publication du calendrier électoral par la CII, un acte qu'il qualifie de violation de la Constitution et de l'arrêt de la Cour suprême de justice prolongeant le mandat de la CII, d'où, estime le MLC, il faut une concertation politique urgente pour éviter la crise. On écoute François Mamba, secrétaire général du MLC, au micro de Inoussa Onenga.
S'agissant des difficultés quant au respect des dispositions constitutionnelles concernant le processus électoral, nous disons d'abord ceci. Depuis 2007, qu'est-ce que la CII a fait pour éviter les problèmes que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Maintenant qu'on en est là, et puisqu'il faut prendre des décisions qui émèrent la Constitution, il n'y a personne qui a le droit de le faire seul. Revenons donc à l'esprit qui a fait qu'il y a eu la paix dans ce pays, qui a fait qu'il y a eu des élections en 2006, c'est-à-dire les consensus. Et c'est toute chose qui nous amène donc, nous, MLC, à faire la proposition concrète, qui consiste à dire tout le monde autour d'une table. Nous n'en sommes plus là, c'est-à-dire à des questions d'ordre juridique. Nous sommes en plein dans une crise politique qui s'annonce. Faisons en sorte d'éviter que cette crise se concrétise. Puisqu'alors, une fois qu'on est dedans, on ne sait pas comment on va pouvoir faire pour en sortir. Nous sommes donc dans une phase préventive. Et c'est pour ça que je dis, nos propos sont des propos de responsabilité. Nous tenons autour d'une table, trouvons le consensus par rapport au processus, comment nous allons le poursuivre dans l'équité. Puisqu'à l'évidence, ce qui est en train de se passer, c'est comme pour un match, une équipe devient tout d'un coup l'arbitre, la fédération qui fixe les règles, les joueurs, c'est inadmissible. Ce que nous proposons, c'est que, par le consensus, nous trouvions les moyens de fixer les conditions dans lesquelles ces élections-là vont pouvoir se dérouler, toute chose étant prise en considération, c'est-à-dire à la satisfaction de tout le monde. À partir de ce moment-là, les règles étant des règles communes, nous allons pouvoir fixer un calendrier raisonnable et responsable, qui sera non seulement respecté, mais dont les résultats, je parle des résultats des élections, ne pourront qu'être acceptés par tout le monde. Donc cela est absolument indispensable. Nous le devons à notre pays, parce que sinon c'est un retour en arrière, sinon on va au-devant d'un blocage, parce que je n'imagine pas que la MP, par exemple, puisse aller seule aux élections. Et que la MP par la MP pour la MP, bon, qu'est-ce qui va se passer après?
Martin Ngoyi, beaucoup de réactions au sujet de la publication du calendrier électoral. Il y a aussi cette réaction du MLC qui propose des concertations politiques. D'abord, comment vous réagissez à la proposition du MLC?
Oui, le problème fondamental, mon ami, c'est que l'unique base légale aujourd'hui, la base qui fait que la CII fonctionne, c'est l'arrêt de la Cour suprême de justice. Mais qu'est-ce que dit cet arrêt? L'arrêt reconnaît à la CII trois missions. La liquidation de la CII, la préparation du rapport général, et le fait de préparer ce qu'on appelle vider, éponger les arriérés électoraux de 2006.
Avec l'organisation des élections locales.
Avec l'organisation des élections locales, c'est dans ce cadre qu'il y a même qu'on colle la dimension des révisions du budget électoral. Point et trait. L'arrêt de la Cour suprême ne prévoit nullement que la CEI puisse s'adjuger de nouveaux pouvoirs au point de pisser aux élections 2011. L'unique disposition ou dispositif sur lequel la CIST ou la BMALOAD essaie de s'appuyer aujourd'hui, c'est l'article 55 de la loi organique promulguée par le chef de l'État le 30 juillet 2010. La loi organique sur la CENI, c'est cette loi qui prévoit une disposition transitoire qui dit que les membres de la CII restent en place, restent en fonction jusqu'à l'entrée en vigueur des membres de la CENI. Alors, mais le vrai problème n'est pas aussi si simple à expliquer, parce qu'en fait, il y a des considérations d'ordre politique qui ont pesé peut-être sur la conscience de cette CII afin qu'elle libère les documents qu'elle avait. Quelles sont ces considérations? On estime que la session de septembre a généralement été une session budgétaire, que ce soit chez nous, ici chez nos pays, que dans d'autres pays. Et que pour donner aux bailleurs de fonds, à nos partenaires bi- et multilatéraux, il fallait un document qu'ils puissent soumettre à leur gouvernement et organismes respectifs à partir de la session de septembre. Chez nous, par exemple, la session de septembre commence le 15. Donc, on aura consommé les deux semaines, le temps qu'on puisse mettre en place la CENI, donc on aura vidé le mois de septembre, c'est peut-être vers la mi-octobre qu'on peut avoir la CENI. Alors, ces institutions, c'est-à-dire ces partenaires bi- et multilatéraux, doivent siéger chez eux à partir de début septembre, comme ça se faisait à cette époque. Donc, il fallait absolument que la CEI, d'après les explications que nous avons pu entendre dans le couloir, libère ces documents comme un outil de programmation, comme un outil de travail. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des considérations qui ont poussé, son contraire, les autorités politiques réunies à l'intérêt institutionnel, délibérer M. Lévi Manoua à faire ce travail de façon que ce travail soit connu. Mais ce travail est susceptible de changement. Après les recoupements que nous avons faits, les recoupements qui viendront avec la CENI qui, elle, est fondée et qualifiée. Mais pour l'instant, c'est un document de programmation, un document de travail. Alors, je réponds à votre question maintenant. Est-ce qu'il faut, pour autant, que la CENI n'est pas encore là, qu'on puisse tabler sur des concertations politiques? Parce que les concertations politiques posent un problème de la petite transition. C'est-à-dire la transition qui irait de la période de l'expiration du mandat du président de la République, à partir du 6 décembre à minuit, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau président à son investiture, cette petite transition qui pourrait, elle, s'étirer en longueur. Comment? Mais parce que déjà la CEI, à la phase actuelle, a déjà accumulé, sur base du calendrier promulgué ou publié, la CEI a déjà accumulé un état de 3 mois. Et avec la prolongation des opérations de révision du budget électoral dans le Bas-Congo, d'autres mois vont s'ajouter. Alors, les politiciens avides du pouvoir sont prêts à sauter sur la brèche pour se refaire la santé financière, pour se refaire la santé, avoir le pouvoir, l'impérial une fois de plus. Donc, est-ce qu'il faut qu'on en arrive là maintenant? Moi, je pense que c'est un peu trop tôt. Ce qu'il faut est qu'on mette le boucher double pour installer la CENI. Et cela, ça demande la volonté de part et d'autre. La majorité doit dégager les 4 personnes et l'opposition doit dégager les 3 personnes. On met rapidement en place la CENI. La CENI va s'appuyer sur le document de travail produit par Malou Malou pour voir quels sont les ajustements nécessaires pour que, mais, qu'on se situe aujourd'hui et qu'on parle de la petite transition. Je crois qu'on est en discours.
Oui, Ambroise Mamba et Marcel Noy pensent qu'il ne faudrait pas parler maintenant des concertations politiques. Et à votre avis, d'abord, comment vous analysez la proposition du MLC?
Je la trouve pas bonne, étant donné que si vous interrogez l'histoire, si nous interrogeons l'histoire, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les négociations qui se sont ouvertes au pays ont abouti à quoi? C'est la question qu'on peut d'abord se poser. Vous allez peut-être vous rappeler du San City qui nous a conduit à 1+4. C'est un schéma qui a surpris le monde entier. Et ça a pris tellement de temps que ça nous a amené où ça nous a amené.
Et ce qui a pris une première expérience,
ce qui a fait les expéditions qui sont retrouvées dans le gouvernement de transition, elles n'avaient pas la possibilité de pouvoir gérer librement. Et aujourd'hui, lorsqu'on voulait établir un certain bilan, tout le monde déclinait la responsabilité. Il y a Kabila qui disait par exemple que non, je n'étais pas seul, j'étais avec les autres, Bemba disait la même chose, Roubaix la même chose, tous les autres.
Aujourd'hui,
les consultations ne sont pas opportunes. Pourquoi? Parce que Malou, d'abord il y a un débat juridique, un débat politique. Sur le plan juridique, Malou n'avait pas la qualité de pouvoir publier un tel calendrier électoral. Aujourd'hui, la MLC semble relayer un tout petit peu l'opinion de la majorité en parlant des difficultés qui ont fait qu'on puisse pas respecter les dispositions de la Constitution. Moi, je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'on me dise qu'il n'y a pas eu des moyens pour faire respecter la Constitution. Et les moyens qu'il y a eu aujourd'hui pour qu'on ait aux élections viennent d'où? C'est le gouvernement qui les a disponibilisés, n'est-ce pas? Alors, le gouvernement n'avait pas la possibilité de pouvoir de mobiliser les fonds bien avant pour que l'on mette en place. Et c'est comment la CENI, d'abord sur les plans politiques, que la loi sur la CENI soit adoptée, promulguée dans les temps, et que les moyens soient mis à la disposition de la CENI pour qu'on puisse effectivement respecter la Constitution.
Et c'est possible, maintenant.
Puisque la Constitution n'est pas respectée, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quoi? La première chose, d'abord, il faut que le président de la République parle, parce que je l'ai dit la fois passée, il est le garant de la Constitution. C'est pas pour rien qu'on l'appelle garant de la Constitution. C'est lui qui doit faire respecter la Constitution. Lorsqu'on il a promulgué la Constitution un certain 18 février 2006, la Constitution lui a dit, président de la République, mais voici, faites-moi respecter. Faites-moi respecter ce qu'il a dit. Et lorsqu'on viole de manière délibérée la Constitution inédiment, est-ce que l'on sait quelque chose? Il doit dire quelque chose. Deuxièmement, c'est l'homme qui dit en place la CENI, la session parlementaire, c'est ça, c'est pour bientôt.
je voudrais qu'effectivement il y ait des consultations, si pas des consultations au niveau de l'opposition vite, entre l'opposition parlementaire et l'extra-parlementaire, qu'on choisit déjà les trois représentants de l'opposition.
Là, c'est le fait de la classe politique, qui ne réagit pas, qui ne fait rien, alors que le chef d'État a promulgué la loi sur la FEMI. En principe, au lendemain de la publication de cette loi, la classe politique devait se mobiliser pour désigner les sept membres et attendre la session de
la loi. La loi a été promulguée en pleine vacances parlementaires. La désignation des personnalités indépendantes dont on parle, qui doivent animer la CENI, c'est à l'Assemblée nationale.
Non, il a été demandé à la classe politique de désigner les sept membres de la CENI, et c'est à l'Assemblée nationale qu'on va entériner. Donc il n'est pas dit que la classe politique est obligée d'attendre la session de
cette chambre. L'opposition à la majorité.
Tous les opposants et tout le monde de la majorité ne sont pas nécessairement dans le Parlement.
Oui, peut-être qu'ils sont arrivés à pouvoir désigner les trois représentants qui seront entérinés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on dit qu'on attend l'ouverture de la session parlementaire de septembre pour qu'effectivement on puisse mettre en place un bureau de la CENI qui va se servir du calendrier publié par la CENI comme un document de travail. Comme ça, on peut le rédiger à pouvoir ramener les dates dans les délais constitutionnels. Dans ce sens, je pense que ça irait.
Stanka Bongo, votre réaction?
Oui, nous, comme mon précédent conseil vient de le dire, nous rentrons encore en 1960, donc 50 ans après. Nous sommes en train de patauger. On dit qu'on avance? Non. Mon précédent conseil a dit qu'on part toujours des négociations à négociations. Mais tout à fait, nous avons commencé les négociations. Ça nous a mené où? Je viens de le dire. Et de devenir une négociation de politique. Mais nous ne retirons pas la réaction de l'OMC. Parce que nous sommes comme tous d'aller aux élections. Nous sommes d'accord avec la démocratie. Mais là, nous ne voulons pas qu'on nous fasse encore d'autres oppositions qui ne vont pas chanter la population. Parce que le dirigeant doit venir de la base. C'est la base qui doit les élire. Si vous voulez bien voir, en prenant seulement le calendrier, les élections au niveau de la base, ils ne vont pas organiser. On s'est confirmé ça en 2013. Ça veut dire les élections présidentielles en 2011. C'est pour vous dire qu'il y aura disparité au niveau de mandat des institutions. Nous risquons de ne pas arriver à l'organisation des élections locales au niveau de la base. C'est ce que les députés vont faire. C'est de venir vite pour mettre en place les membres de la CENI. Et ces membres de la CENI vont directement étudier d'abord le calendrier. Si le calendrier est normal, selon eux, ils peuvent accepter pas ce moment-là, ce sont nos représentants.
Donc ce calendrier est capable d'être révisé, d'être modifié.
Oui, c'est moi, je considère ça comme un projet. Bon, les députés aussi, ils ont commis une erreur. Pendant longtemps, là, au lieu de proposer cette loi, au président de la République, pour l'équipe de la police, ils ont mis beaucoup de temps. C'est comme ça que malheureusement, on a profité pour l'enregistrer ce qu'il a bien de faire.
Marcel Ngoyi, effectivement, comme l'a dit Charles Kabongo, le projet de loi sur la CENI a traîné pendant longtemps à l'Assemblée nationale. Pourquoi les députés n'ont pas exercé une certaine pression pour que cette loi soit examinée, étant on sait que c'est parmi les lois les plus importantes?
Oui, tu sais que je respecte beaucoup les députés parce que ce sont les élus du peuple. Je respecte les sénateurs, les députés provinciaux, nationaux. Mais parfois, ils arrivent parfois à nous surprendre et à contrarier notre confiance, à contraster notre confiance. Ils ont passé beaucoup de temps à rechercher des motions, des commissions d'enquête, à chercher la tête de X, de Y. Et ils ont à un moment relégué au second plan des questions essentielles. Par exemple, les élections dont on parle ici, c'est la matière qu'il fallait traiter dès le début de la législature. On n'en serait pas arrivé là. Vous verrez que même des problèmes budgétaires, d'ordre budgétaire, Malou s'est plaint sur les antennes de Radio Capi pour dire que plus d'une fois il a déposé des propositions budgétaires qui n'ont jamais été prises en compte, que le gouvernement n'a jamais exécuté. Aujourd'hui, on se réveille à 3 mois et 3 ans et plus de 8 mois. On se réveille, on commence à voir qu'on n'a plus assez de temps. Donc, et les députés, et le gouvernement, si nous prenons en compte l'accusation, la critique de Malou, ce sont des personnes qui sont mises dans le même paquet, dans le même, une sorte de même cul-de-sac. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps à voter des lois qui sont importantes pour le pays, mais qui ne concernent pas le processus qui consiste à organiser les élections dans le sens d'organiser l'alternance au pouvoir. La conséquence aujourd'hui,
c'est ce que nous disons là. On voudrait tomber dans le piège du compromis politique global, dans le piège du partage équitable et équilibré du pouvoir, dans le piège du consensus qu'il faut rechercher à tout prix. Nous sommes sortis du schéma 1 plus 4, un schéma atypique. La prochaine fois, ça sera peut-être 1 plus je ne sais pas combien, parce qu'il faut prendre en compte les différentes voies qui s'élèvent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quelque part, la classe politique congolaise souffre d'un déficit en matière de vision, en matière de dimension politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans notre pays, des opposants qui sont porteurs des valeurs, qui comprennent que le pays, c'est tout ce que nous avons. Et si la classe politique que nous avons devant nous est responsable, elle ne peut pas se laisser s'enchevêtrer dans des considérations d'ordre de partage en permanence. Je propose l'idée, moi je dis tout simplement que les négociations en soi ne sont pas une mauvaise chose. Mais ce qui est mauvais, c'est l'esprit de continuer à négocier, même au-delà de ce qui est prévu dans la Constitution. La loi des lois fixe un mandat. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre tout le monde dans des conditions telles que ces élections se tiennent dans les délais. Il faut mettre tout le monde dans les comptes. S'il y a des partenaires qui peuvent nous aider, si les Congolais eux-mêmes peuvent s'approprier le processus électoral en donnant une contribution d'une manière ou d'une autre, comme c'est plus l'autre fois avec l'idée d'impression de la carte pour citoyens dont on ne parle plus d'ailleurs, donc il y a moyen que ce processus se réalise dans les délais. Du moins pour l'élection présidentielle au premier tour.
À propos, effectivement, la question posée par les confrères au téléphone qui parlent de la loi sur la CENI qui n'a pas été disponibilisée à temps, par exemple, moi je suis des ceux qui ont couvert les débats sur la loi sur la CENI à l'Assemblée nationale. C'est une question très sensible. J'ai dit comment il y a eu des manœuvres politiciennes pour tirer les choses en longueur.
De la part de qui?
D'abord, de la part des députés, eux-mêmes, des manœuvres politiciennes au niveau de l'opposition, tout comme au niveau de la majorité. D'abord, vous savez que la programmation des matières relève de la compétence du bureau. Même s'il y a eu des motions, même s'il y a eu d'autres lois. La loi sur la CENI était aussi une loi importante qu'il fallait expédier vite. C'est peut-être une certaine loyauté, une certaine fidélité, et on a tiré les choses en longueur pour programmer la loi sur la CENI aussi rapidement, pour qu'on mette en place un bureau de la CENI, et comme ça, on échapperait à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a eu des manœuvres politiciennes qui ont tiré les choses en longueur pour qu'on ne puisse pas avoir à temps la loi sur la CENI. Mais aujourd'hui, ça ne dépend pas de la volonté d'un homme. Ça ne dépend pas de la volonté du président de la République. Ça ne dépend pas de la volonté du président de l'Assemblée nationale. Ça dépend de tout un peuple qui a donné son aval par rapport à la constitution qui régit aujourd'hui les pays. C'est la constitution qui vous dit, vous aurez des élections présidentielles 90 jours avant l'expiration du mandat présidentiel. Ça veut dire que on appartenait pas à Maloumal ou de dire ce qu'il voulait, ça appartenait à la constitution d'imposer les règles du jeu comme ça a été adopté au référendum populaire.
Il y a beaucoup assez de temps, comme l'a évoqué la Béarolivière Malmalou, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait agir dans le sens de organiser les élections dans le délai ou tenir compte des contraintes. Vous savez, Marcel a évoqué un certain nombre de contraintes qui auraient poussé la CEI à prendre cette décision.
Mais aujourd'hui, les moyens qu'on doit disponibiliser pour organiser les élections, ça vient d'où? Pour aujourd'hui, on dit qu'il y avait des contraintes, qu'il y avait des discussions, ainsi de suite. Non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Tout simplement parce qu'il y avait une volonté délibérée qu'on en arrive là.
Charles Kabongo, qu'est-ce que vous proposez pour que l'on organise les élections dans le délai constitutionnel?
On attend l'installation de la Commission nationale électorale.
La CENI?
La CENI par le Parlement, au nom des membres. Et ces membres-là vont étudier qu'en respectant la Constitution, ils vont s'adapter à ce que la Constitution prévoit. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour trouver une solution à ce problème.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir. Crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, certains députés réclament le départ du président du bureau, accusé notamment d'incompétence et de mésgestion. Certains éléments se basent sur ces députés pour formuler des accusations à l'endroit du président de cette institution provinciale. On écoute le député provincial de l'opposition, Martin Fayoulou, qui répondait aux questions que l'on écoutait dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier, jeudi à la radio Kati.
On reproche au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa des violations systématiques du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et puis l'incompétence. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale n'arrive pas à diriger les travaux de notre institution comme il se doit. Le président viole systématiquement l'article 30 du règlement intérieur. L'article 30 dit ceci. Le président de l'Assemblée provinciale assure une mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée provinciale provinciale. À ce titre, il accomplit notamment les tâches ci-après. 1. Veiller au bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale et en rendre régulièrement compte à l'Assemblée plénière. Il ne le fait pas. Nous sommes aujourd'hui le 18 août et ça fait plus d'un mois que l'Assemblée a repris. Et combien de réunions nous avons eues depuis que nous avons commencé la session? Les sessions passées, les sessions durent 3 mois. Nous nous réunissons généralement pendant 16 à 20 jours. Qu'est-ce que nous faisons? Et quand le président dirige l'Assemblée, le plénière, il n'a pas de maîtrise de certains articles du règlement intérieur.
Marcel Ngoyi, vous venez suivre le député de l'opposition, le député provincial Martin Fayoulou, qui a pris à l'Assemblée provinciale. Comment vous réagissez aux propos de Martin Fayoulou?
Ce sont des propos, ça me fait rire.
Pourquoi?
Ça me fait rire parce qu'on a laissé ce président-là diriger depuis le début de la législature. On attend vers la fin. C'est maintenant qu'on découvre qu'il est incompétent. C'est maintenant qu'on découvre qu'il est, je ne sais pas, complice de ceci ou de cela. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème réside dans la lenteur avec laquelle on constate, on découvre. C'est comme les gens qui savent que non, ils ont autre chose à faire et qui font ce travail-là parce qu'il faut le faire pour la forme. Le pays que nous avons, je le disais, c'est l'unique. Nous autres, nous n'en avons pas d'autres. Alors, il faut respecter les normes. Il faut respecter l'éthique. Vous avez un règlement intérieur, le président le viole systématiquement. Depuis plus de 3 ans, depuis plus je ne sais pas combien, et aujourd'hui on se réveille. Donc, vous comprenez dans quelles circonstances on se retrouve. Tout récemment, la même Assemblée nationale s'est réveillée aussi, elle a pris une décision contre l'Assemblée provinciale plutôt, s'est réveillée, elle a pris une décision contre le vice-gouverneur.
De
la ville de Kinshasa, et Clément Bassiba. Et au moment où nous parlons, on en est à une saisine à la Cour suprême de justice, il y a un problème d'interprétation. Et on reproche l'ensemble des députés provinciaux de s'être livrés à un exercice périlleux parce qu'ils n'ont pas respecté aussi les règlements intérieurs. Donc il y a à manger et à boire dans l'affaire. Il faut dédramatiser la situation. Il faut analyser la situation froidement. Qu'est-ce que Roger Tshisingi a fait? Et quand on lui reproche, est-ce qu'on a ficelé une motion en bonne et due forme? On dit oui. Alors, actionnons les mécanismes. Comme les verrous, ils peuvent sauter. Pourquoi on les garde? Voilà le vrai problème. On a parlé de concertation. Mais parce que le bureau institué répond à quelques orientations politiques de la famille, parce qu'il est là. Mais les concertations peuvent se faire aussi au niveau provincial. Mais regardez ce qui s'est passé. On suspend, ou on frappe, on sanctionne, l'Assemblée sanctionne le vice-gouverneur. Mais le gouvernement provincial qui est avec Timbouta qui lui était la personne attitrée pour répondre de la gestion de la province ville de la ville-province de Kinshasa. Donc le gouvernement soutient le vice-gouverneur. Et le vice-gouverneur se cache maintenant derrière une décision du gouvernement provincial et attend que la Cour suprême puisse se prononcer. Et durant ce temps, il est là, il fait son travail. Voilà la parodie des démocraties. Moi, je pense que, quelque part, il faut un saut de grandeur. Il faut un bon qualitatif en avant. Il faut refuser le mal. Et ce mal doit être refusé à la racine. Ça veut dire quoi? Martin Fayoulou fait œuvre utile en dénonçant, en démontrant. Je salue son courage en passant. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, à des demi-mesures. Il a fait, mais il y a longtemps qu'il a fait ça. Mais pourquoi on l'avait gardé? Pourquoi on l'a gardé?
Donc, oui, au moins, on n'a pas attendu la fin de la législature pour dénoncer.
Il dénonce maintenant.
Il a toujours fait.
Il a toujours fait quelquefois. Mais ils sont combien les gens qui peuvent se comporter comme lui? Ils ne sont pas nombreux dans cette assemblée provinciale. C'est pourquoi je dis qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre les points sur les i dans cette assemblée provinciale.
Ambroise Mamba, les députés provinciaux ont attendu à la fin de la législature pour constater que leur président était incompétent.
C'est bien dommage. Moi, je m'y attendais, effectivement. Je m'attendais à cette crise. Parce que après la mise en place de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on a vu Roger Tshisingi faire ce qu'il fait.
Il n'a pas... Vous l'avez dit, pourquoi?
Je suis journaliste, d'abord. Je suis journaliste. Et j'ai fait les constats. Entre le travail d'un parlement provincial et d'un gouvernement provincial, j'ai vu qu'il y a eu certaines amitiés qui sont tissées entre les deux institutions. On va souvent Roger Tshisingi à côté du gouverneur. Et lorsqu'il y a des questions importantes par rapport à la gestion de la ville, on dit que le président de l'Assemblée provinciale, c'est comme s'il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de se mettre ça au débat. Et lorsqu'il y a certains rapports sur la gestion de la ville, il ne veut pas programmer la matière. C'est entre autres ça qu'on nous reproche. Il ne veut pas programmer les débats sur certains rapports, sur la gestion de la ville ainsi de suite. Et il y a une motion de défiance contre le gouverneur André Kimbuta à son temps, mais ça n'a pas été débattu. Il y a eu d'autres motions ainsi de suite. Et aujourd'hui, je pense qu'il est dans une certaine dissidence, si pas une certaine rébellion avec sa famille politique du MLC, qui ne veut pas cautionner les détournements dont il est supposé être auteur. Et voilà pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Et les députés provinciaux se sont réveillés, comme l'a dit mon ami Marcel, en retard pour dénoncer et puis chercher à le faire tomber, effectivement. Mais s'il dénonce, tout simplement, c'est là, je viens à mon ami Martin pour dire qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. C'est pas moi présenter une motion de défiance contre lui. J'ai dit qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de décrets qui sont retenus à ce tirage, qui font qu'aujourd'hui, les députés provinciaux puissent dénoncer et puissent chercher sa tête.
Oui, Charles Kabongo, au-delà des revendications des députés provinciaux, quel est le véritable, à votre avis, le véritable enjeu dans cette affaire?
Le véritable enjeu, je suis dans une province où les mêmes cas arrivés, évidemment, il y a peut-être 3 ou 4 mois. Et je vous dis que c'est une matière.
Le reste de Banindou.
Oui, de Banindou, on avait sorti le téléphone dans le bureau, toujours dans les mêmes conditions, les compétences, ceci, cela. Bon, je disais que pour nous, c'est une question, nous, la population, nous sommes en train de voir les gens que nous sommes en train de donner confiance, comment ils sont en train de les recevoir. Mais les questions qui sont là, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà traité pour le faire? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils ont déjà fait combien? Il n'y a que de motions sur motions. Bon, de toute façon, nous rappelons encore que c'est comme en 1960, à l'époque de 1927. Nous sommes partis un peu vite en dedans, en installant dans la constitution, les assemblées provinciales. Pour moi, je pense qu'on savait qu'on commence, comme puisse d'abord retenir l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour puisse avoir l'expérience, je pense que c'est un apprentissage que nous sommes en train de faire, et prochainement, qu'on puisse avoir une assemblée provinciale. Les assemblées provinciales, Marcel, je viens de le dire, depuis 3 ans, ces gens-là ne sont pas compétents. C'est maintenant, en 2008, où on trouve que ces gens-là, ils n'ont pas le droit de diriger. C'est vraiment regrettable pour notre pays. Encore une fois, une preuve de l'homme politique que nous avons dans notre pays.
Oui, Marcel Moïse vous pose la question que je vous ai posée à Charles Kabongo. À votre avis, quel est le véritable enjeu? Est-ce que c'est la tête de Roger Nkingi ou il y a autre chose qui est visée?
Je veux situer d'abord le problème. Quelle est la mission de l'Assemblée provinciale? La première mission, c'est le contrôle de l'action du gouvernement provincial, représenté ici d'abord par André Kimbuta. Vous savez que André Kimbuta a initié un certain nombre d'édits, un certain nombre de projets. Vous avez la DGRK, vous avez les Rimokines, vous avez le projet d'une régie des transports. Donc, quelque part, ce sont des décisions qui ont été prises. Il y a même des matières liées à l'attribution des marchés publics. On a parlé, par exemple, d'une grande avenue à Kimbaboa, dont il fallait exécuter les travaux, et les travaux sont bâclés, et ainsi de suite. Alors, pour arriver à bien faire son travail, l'Assemblée provinciale a la latitude de maintenir cette indépendance vis-à-vis. Je parle de l'indépendance.
Et vous pensez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas
indépendante? On vous a parlé de complicité, de combine.
Est-ce que c'est établi, cette complicité,
entre
l'Assemblée provinciale et l'exécutif?
Établi, vous allez me demander des faits, c'est quel jour. Ça, ce sont les détails. Les diables sont dans les détails. Il se cache dans les détails. Moi, j'ai dit tout simplement que je parle des principes. Vous voyez, lorsque vous voyez un président de l'Assemblée provinciale se retrouver en permanence avec le responsable, celui qui dit qu'il est censé contrôler en permanence, il y a une dilution de l'autorité. La conséquence est que pour contrôler une telle personne, ça devient difficile. Et c'est le piège dans lequel nous sommes tombés. La complicité, les combines, les rencontres, donc, les intimités, les affinités qui se développent, alors que vous avez un pouvoir à exercer, ça pose trop de problèmes.
Ambroise Mamba, vous pensez que si Roger Nkingi est donnée. Vous pensez que le MFC aura la capacité de reconquérir ce poste?
Non, là, j'ai de répondre, tout en plus de répondre par la négative, étant donné que le MFC n'a qu'une deux députés au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur 48.
Avec les alliés.
Les alliés qui s'étaient désolidarisés autrefois lorsqu'il fallait élire le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa. Alors, c'est ce qui me fait dire, effectivement, avec les 22 députés, je ne vois pas le MFC reconquérir le poste. Là. Mais le plus important ici, c'est que Roger Sindi, s'il peut rentrer dans la ligne politique du MLC, je pense que ça va lui profiter. Mais s'il ne peut pas rentrer, c'est dommage. Lorsque vous parlez des combines, lorsqu'on parle des combines, non pas des amitiés, ainsi de suite, vous posez la question de savoir si c'est établi. Mais ici, on n'a pas besoin qu'on établisse, on a besoin de les constater, on les constate, on les voit. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un établisse une complicité. On les constate, on voit qu'effectivement, il y a des complicités. Et lorsqu'il y a des complicités, Roger Sindi ne peut pas contrôler André Kimbuta. Et ça, c'est clair. Et c'est dangereux pour la population si vous voyez comment les routes de Kinshasa qui relèvent de la compétence de la province ou de la ville sont négligées et c'est vraiment dommage qu'au niveau de la scène provinciale on n'en parle même pas et puis on n'en fait même pas les courses.
Ambroise Mamba, vous vivez dans cette ville de Kinshasa et s'il faut parler du bilan de la famille provinciale de Kinshasa, comment vous appréciez l'action de cette institution provinciale depuis le début de cette législature?
J'ai eu affaire à un baladeur, je suis journaliste, j'ai posé la question de savoir si la population connaissait s'il y avait une victime de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On m'a répondu par la négative. Donc c'est pour vous dire que les actions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne sont pas perceptibles au niveau de la population. Ce qui fait que cette Assemblée n'approche pas la population.
Charles Kabongo, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette crise?
Oui, moi je pense que ces crises, parfois, ce sont des manœuvres où les autres demandent et ils veulent que d'autres partis soient en place, d'autres pour bien y mettre. Je pense que nous devons transcender les sentiments pour que le président termine le mandat. Mais s'il trouve que réellement il a détourné, il faut taper à la Cour des comptes pour que le Cour des comptes vienne, mais il faut les enquêter la justice pour voir réellement qu'il a détourné. S'il parle de l'incompétence, ce n'est pas les enfants, ce sont elles qui l'ont élu pour qu'ils viennent se lever de l'Union.
Oui, Marcel Ngoï, vous avez un mot à ajouter?
Un mot à ajouter parce que ce qui se passe à Kinshasa ressemble un tout petit peu à ce qui se passe à l'Équateur, où une motion de défiance est initiée contre le vice-gouverneur. Ça ressemble un tout petit peu à ce qui se passe à Kananga. C'est un peu le même spectre de la recherche effrénée du pouvoir. Et puis, créer des crises parfois quotidiennes à lieu place du travail. On passe du temps à faire des motions, à diriger telle motion, à lancer des flèches mouchetées contre tel ou tel autre responsable. Et finalement, on se retrouve, l'État est terminé, la législature est terminée. On commence à dire qu'on n'a pas eu le temps d'organiser ceci ou cela. La conséquence est qu'on a tourné 5 ans, on a tourné en rond, sans avancer.
La démocratie parlementaire au niveau provincial est trop jeune, il faut la consolider.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matondou était à la technique, Kelly Coupé à la réalisation assistée de Samuel Kassak sous la supervision de Télé Kipela Mondo. Guy Maté vous a présenté cette émission. Merci et bon week-end sur Radio Capi. I'm going to go to the next one.